Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay avec Sébastien Ponchelet.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est lundi, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émissions. Et ce soir, c'est votre consultation mensuelle santé et bien-être avec notre partenaire Transportez-vous Bien. Ce mois-ci, les maladies hivernales. Le détail dans un instant, mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute. Pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, notre interne Thibault Luc. Bonsoir Thibault.
Salut Sébastien, comment ça va?
Très bien, et vous-même?
En pleine forme.
Formidable. Et pour le sud-ouest du pays, notre second interne, Florian Bonnec. Bonsoir Florian.
Bonsoir Thibault, bonsoir Sébastien. Mais oui, on va prendre cette présentation, il n'y a pas de souci. Je vais avoir du mal à rivaliser avec la voix de Thibault aussi hein, ce soir.
Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre 2024. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Deux heures en toute convivialité, quel que soit le thème abordé.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Il y a quelques jours, la grippe a fortement gagné du terrain. L'hiver étant propice à ce virus, comme plusieurs autres, la gastro-entérite, le rhume ou encore la bronchiolite pour les enfants. Et sans oublier la Covid-19, car nous vivons avec maintenant. Avec notre partenaire Transportez-vous Bien, nous allons revenir sur ce que sont ces maladies hivernales, sur les bons conseils pour s'en prémunir. Je vous présente dans quelques minutes notre invité qui vous accompagnera pendant les deux heures de l'émission. Êtes-vous facilement touché, infecté par ces maladies hivernales? Ou pas du tout, ça vous arrive que rarement avez-vous déjà été fortement impacté par une de ces maladies hivernales au point de ne pas pouvoir rouler. Radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? C'est aussi notre sondage de ce soir. À retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Évidemment, les amis, je ne pouvais pas commencer cette émission sans cette chanson d'Anaïs.
Peut-être une angine.
Vous en avez une, vous? Non? Ça va?
Non, ça va.
Thibaut aussi, ça va?
Moi, il vaut mieux pas. Hein.
Ouais, non, ça va aller.
J'essaie en vain de penser à autre chose que toi.
Malo qui nous a écrit « Bonsoir, Sebamax, et bonne émission à toutes et tous. » Merci, Malo, et n'hésite pas à réagir à notre thématique de ce soir comme vous toutes et tous. Vous aussi, écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur « Envoyer un message ». Et tiens, dites-moi, si vous êtes en hiver plutôt grippe, plutôt rhume ou plutôt gastro-entérite, ça fait moins envie, hein, forcément, là tout de suite. Les maladies hivernales, votre rendez-vous santé ce mois-ci avec notre partenaire.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Avec Transportez-vous Bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
Docteur Pascal Gillet, médecin généraliste et dirigeant de la plateforme Medialan pour le programme Transportez-vous Bien ce soir. Merci d'être avec nos auditeurs ce soir. Vous êtes maintenant un grand habitué hein, de cette émission. La semaine dernière, la région parisienne est entrée ce qu'on appelle en phase épidémique pour la grippe. L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Normandie sont en phase pré-épidémique. Mais avant de parler de ces maladies hivernales dans le détail et comment s'en prémunir, on peut peut-être déjà réexpliquer la différence entre épidémique et pré-épidémique.
Alors, la définition, elle n'est pas complètement formalisée ou consensuelle. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la différence entre l'endémie et l'épidémie. Donc l'endémie, c'est quelque chose qui est constant et qui généralement est limité à un secteur géographique, alors que l'épidémie, c'est quelque chose qui évolue par cycle et qui ne se limite généralement pas à une zone géographique. Et c'est en fait dans la pré-épidémie, en fait, c'est quand on passe d'un phénomène dit endémique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a démarré quelque part et qui est en train de s'étendre et d'augmenter en intensité. Et donc là, on va parler de phase pré-épidémique. Alors après, il peut y avoir des seuils en fonction du nombre de personnes qu'on a détectées, etc.
Je le disais, hein, la région Île-de-France a été passée en phase épidémique pour la grippe. Hein, on parle bien que de la grippe là, dans ce qu'on dit. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a dépassé vraiment un stade de patient, de passage aux urgences?
Ouais, en fait, c'est Santé Publique France hein, qui suit ça et qui donne des informations hebdomadaires, donc à travers son bulletin épidémiologique, qui permet à tout un chacun hein, de s'informer. Et il y a deux réseaux. Alors, je ne sais pas exactement comment ils répartissent les informations des deux réseaux, mais il y a deux réseaux. Un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle, qui est avec des médecins généralistes et des pédiatres et des chercheurs volontaires. Et donc, qui effectivement, on remonte les cas qui arrivent chaque jour dans les cabinets, et puis également un autre réseau avec SOS Médecins et puis les services d'urgence qui pareil font des remontées quotidiennes sur le nombre de cas qui se présentent, et donc ça permet comme à l'époque du Covid de suivre assez finement l'augmentation, la stagnation ou la baisse des grandes épidémies virales qu'on a chaque hiver en fait.
On va continuer donc d'en parler dans un instant, on va rentrer dans le détail hein, de ces maladies hivernales, et puis vous qui nous écoutez, êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? C'est notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas, ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange, votez et venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger.
Il y a 40 ans, ils étaient sympas sur RTL. Aujourd'hui, sur le 107.7, les routiers sont toujours aussi sympas.
Nous sommes toujours en direct avec Pascal pour Transportez-vous bien, médecin généraliste. Alors souvent, Pascal, il peut y avoir confusion entre rhume, grippe, angine, bronchite, on ne sait jamais trop à quoi on peut avoir affaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des symptômes classiques de ces maladies? Et finalement, est-ce que ça touche le même endroit du corps?
Alors, les angines, déjà, c'est un cas à part, parce que les angines D'accord. peuvent être bactériennes ou virales. Donc, c'est pas exactement ça se présente, on va dire, quasiment avec les mêmes symptômes. Ce qui nous permet de faire la différence, c'est d'utiliser un test local avec un écouvillon, et ensuite, ça permet de savoir si c'est bactérien, auquel cas il est nécessaire de donner un antibiotique. Alors, c'est pas la majorité des angines. Après, tout ce qui va être rhume, alors tout ce qui est similaire, c'est rhume, rhinopharyngite, tout ça, c'est à peu près, enfin, c'est la même chose. C'est le nez et la gorge, en fait, et c'est 100% viral. Ça donne des douleurs, une inflammation, un écoulement du nez. Et puis après, on va avoir la bronchite qui, elle, c'est un peu la même chose, mais à l'étage des bronches, donc des tuyaux qui amènent l'air au niveau des poumons. Donc pareil, inflammation, irritation, toux, grasse ou sèche. Et là aussi, dans une assez large majorité des cas, en tout cas dans les épidémies hivernales, c'est plutôt des virus. La dernière question, c'était, j'ai déjà oublié.
Bronchite, rhume, grippe ou angine?
Ah voilà, et la grippe, pardon. Et la grippe qui va être un virus qui lui va toucher quand même plus spécifiquement la partie respiratoire, toujours, mais qui va toucher aussi bien la partie ORL, c'est-à-dire nez, bouche, gorge, et la partie bronchique, et qui est là, alors quand on parle de grippe, à proprement parler, c'est 100% viral, c'est le virus de la grippe. La particularité, c'est que dans le virus de la grippe, il a en plus un retentissement, on va dire, général, c'est-à-dire une inflammation généralisée beaucoup plus importante, beaucoup plus intense, avec des douleurs musculaires, articulaires, une fatigue intense, des maux de tête. Vous voyez, tout un corollaire de signes qui vont accompagner la partie vraiment ORL ou pulmonaire.
Eh ben, ma question suivante, elle colle bien avec le témoignage de Malo qui justement réagit, et on va aborder l'une des maladies hivernales les moins ragoûtantes. Malo qui nous dit, quand vient l'hiver, je me mets en mode guerrier, j'ai une vraie phobie de la gastro, je deviens un guerrier chauffage hydroalcoolique, toujours avoir une bonne hygiène de vie pour ne pas être malade, c'est la clé pour moi. On y reviendra sur cette hygiène de vie. La gastro-entérite, elle est, en plus d'être gênante, elle est peu ragoûtante hein, quand même, Pascal.
Ah bah oui, forcément, c'est ce qui est le plus inconfortable, on va dire. D'abord parce que, quand on a un rhume, c'est relativement simple. Il suffit de se moucher, voire de porter un masque, etc. On y reviendra aussi, je pense.
Oui.
Parce qu'une gastro-entérite, évidemment, on peut pas empêcher les vomissements ni la diarrhée. Donc c'est en plus quand
et le masque, ça peut être gênant.
Comment?
Et le masque, ça peut être gênant.
Alors le masque, ça peut poser un problème, et puis non, puis c'est vrai que en particulier dans les métiers du transport, en tout cas pour ceux qui sont dans les cabines des camions, là ça peut être vraiment, je comprends que ça puisse être très compliqué à gérer.
Alors, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais la Covid-19 est toujours sous-jacente, mais il faut se rassurer tout de suite. Hein, selon les chiffres de la semaine dernière, nous sommes sur des taux de passage aux urgences très peu significatifs, même si le virus, il faut le rappeler, Pascal, circule toujours.
Oui, circule toujours. Alors en fait, comme les signes cliniques de la Covid maintenant sont très proches des signes d'une grippe, je pense que la plupart du temps, on n'aurait pas forcément. C'est même surprenant qu'on ait encore des chiffres, parce que ça veut dire qu'en fait il y a encore des tests qui sont faits. Or, il n'y a pas de recommandation formelle de faire des tests. Mais effectivement, grâce à ces tests, ça nous permet de donner la typologie, c'est-à-dire grippe ou Covid. Et effectivement, ce qui est vraiment apparenté Covid actuellement est très peu présente. Après, peut-être qu'il y en a un petit peu plus, mais parce qu'on fait plus le test de manière aussi systématique. Mais en clair, beaucoup espéré semble se démontrer, c'est-à-dire que la Covid-19 est rentrée un petit peu dans le rythme des maladies grippales banales, c'est-à-dire bénignes pour 90% des gens, mais qui peuvent être graves pour les 10% restants.
Ludovic qui nous a dit, hello à tes deux confrères, ce soir parlons maladie. Pour ma part, je tombe pas souvent malade, pourtant je suis en t-shirt tout le temps, même en plein hiver. Après, si on doit attraper quelque chose, c'est dû à la fatigue ou un mauvais virus qui traîne dans l'air. Un coucou au fada du bitume, hashtag respectons-nous les uns les autres, hashtag corridor de sécurité, hashtag une heure de plus. Il nous dit qu'il fait 9 degrés à Arles. Il va faire froid partout hein, ce soir et cette nuit, il faudra bien se couvrir. Peut-être pas en t-shirt par moins 12, hein, Ludovic, quand même. On reviendra sur la suite, sur la deuxième partie de son message tout à l'heure avec la suite de notre interview. Mais ce qui est intéressant dans ce que nous dit Ludovic, c'est que encore une fois, on pourrait se dire que tout le monde n'est pas égaux face à ces maladies hivernales, Ludovic qui se promène par moins 15 en t-shirt.
Ouais, alors après ça c'est toujours pareil. Est-ce que vraiment on prend froid? Est-ce que les gens qui sont découverts, qui sont peu couverts, sont plus souvent malades que les autres, ou à l'inverse justement ils sont immunisés ou pas? En fait, sur toutes ces affirmations-là, il y a absolument rien de prouvé. Ce qui est sûr, c'est que les épidémies virales hivernales, on va dire, comme toutes les épidémies qui se transmettent essentiellement par voie aérienne, c'est quand même un peu la loterie. Je pense que pour le premier en t-shirt toute la journée, il n'y a rien à voir. Mais si vous croisez quelqu'un qui vous éternue dessus et que vous n'êtes pas protégé, vous attraperez certainement quelque chose. Donc en fait, la tenue vestimentaire, c'est vrai qu'elle n'est pas... rien ne permet aujourd'hui de prouver l'affirmation dans un sens ou dans l'autre. Après, je pense que pour une simple raison de confort, c'est quand même mieux de se couvrir. Et puis aussi parce que ça fatigue beaucoup moins le corps que de laisser un corps se réchauffer sans couverture vestimentaire. Quoi.
Oui, parce que si je me souviens un petit peu de mes cours de biologie, de sciences naturelles, de SVT pour les plus jeunes, je crois me souvenir que c'est le corps qui produit la chaleur, donc on va demander au corps de travailler encore plus si on est peu couvert, c'est ça ?
C'est exactement ça, hein, donc ça va occasionner une fatigue quand même plus importante. Voilà. Alors, après, encore une fois, hein, comme dans tout ce genre d'affirmation, vous avez des gens qui ont toujours eu l'habitude de vivre toute l'année en t-shirt et qui s'en portent pas plus mal. Bon, pourquoi pas. Enfin, pour la majeure partie des gens, c'est quand même pas tout à fait comme ça.
Alors, évidemment, il existe pas mal de conseils hein, pour se prémunir de ces maladies hivernales, et parmi eux, un qui divise, mais chacun peut avoir son point de vue, notamment pour la grippe et la Covid-19. Il y a en premier lieu la vaccination, Pascal.
Oui, alors après la vaccination, il faut la replacer dans son contexte, hein, c'est-à-dire que la vaccination, on vaccine pour un ensemble de maladies. Donc il y a des maladies terribles, hein, comme le tétanos, la poliomyélite, etc., contre lesquelles je pense pour lesquelles il n'y a pas de débat. Enfin, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de débat. Après, les maladies telles que la grippe ou la Covid, la vaccination, elle a toujours été, alors si on prend non pas juste sur la période du Covid, mais sur les 50 dernières années, elle a toujours été très fortement recommandée. Ce ne sont pas des vaccinations obligatoires, en tout cas aujourd'hui, hein, je parle, très fortement recommandé pour les populations les plus fragiles. Mmh. Donc après, ça reste malgré tout un choix, parce qu'on sait que la grippe tue chaque année plusieurs milliers de personnes et que la vaccination permet de diminuer cette mortalité et de ralentir un peu la contagiosité. Mmh. Donc dans la vaccination, il y a plusieurs sujets. Par exemple, il y a des pays où on vaccine contre la varicelle. En France, on le fait pas. Pour moi, il y a des fondamentaux dans la vaccination, puis il y a des choses qui se discutent plus au cas par cas.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que depuis le 15 octobre, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite pour tous. Pour la grippe, c'est gratuit pour les personnes âgées d'un certain âge et pour les personnes à risque. Mais je tiens à préciser que pour la grippe, les mutuelles prennent généralement en charge la vaccination contre la grippe. Êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? C'est notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Dites-nous si une de ces maladies vous a déjà cloué au lit sans pouvoir rouler ensuite. Est-ce que vous avez des trucs et astuces, vous, tiens, pour vous prémunir de la grippe, le rhume, la gastro? Nous continuons d'en parler ensemble. J'aime beaucoup le truc et astuce d'Emmanuel que je partagerai avec vous dans quelques minutes.
Trois studios, trois copilotes, 4600 km de grands rubans.
Écrivez-nous quand vous n'êtes pas en train de conduire radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et dites-nous si les maladies hivernales font partie de votre vie tous les ans. Et tiens, votre enfant a-t-il déjà été touché par la bronchiolite, une maladie hivernale qui inquiète chaque année les parents? Nous allons en parler dans un instant, mais évidemment on était obligé d'écouter cette chanson. C'est qui?
Ah, je n'ai pas.
Ah, c'est qui? Normalement c'est la chanson préférée des médecins.
Je ne rêve plus.
Ah, bien sûr.
Serge Lama.
Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire.
Pascal, parlons donc de cette fameuse bronchiolite qui inquiète chaque année les parents, généralement des jeunes enfants, il faut le repréciser. Alors, première question, de quoi parlons-nous exactement? Et seconde question, peut-elle aussi toucher des adultes?
Ah oui, la bronchiolite, en fait, c'est une inflammation des petites bronches, donc les bronchioles. La bronchiolite du nourrisson, c'est celle qui est la plus préoccupante, hein, donc elle survient dans les premiers mois de la vie. On considère aujourd'hui qu'à peu près 90% des enfants de moins de 2 ans ont eu un épisode de bronchiolite. C'est quelque chose de très commun. Après, il y a donc toujours une recrudescence, presque hivernale, mais c'est presque plus automnale, puisque là, on est en plein dans le pic, hein, toute la France est en rouge niveau bronchiolite. Il y a un virus, particulièrement le VRS, qui est responsable de ça. Et effectivement, en plus, s'agissant de nourrissons, ça peut assez vite nécessiter une hospitalisation. Des adultes peuvent avoir aussi des bronchiolites. Alors, ça va se manifester de manière un petit peu différente. C'est juste quand même majoritairement des enfants en bas âge. Et heureusement, quand même, dans plus de 95% des cas, on va dire, sans grandes conséquences. Et ça ne préjuge pas, d'ailleurs, du développement ultérieur d'un asthme, en fait.
Et on en est où de la vaccination dans la bronchiolite? Parce que je crois que ça commence un petit peu à se réaliser, ça, non?
Oui, c'est relativement récent. Après, c'est pareil, c'est pas des vaccinations obligatoires. Ça commence à se mettre en place. Je pense qu'après, c'est des discussions à chaque fois entre les parents, le médecin traitant, éventuellement le pédiatre. Et puis, il faut rappeler que là aussi, malgré tout, les recommandations vraiment élémentaires chez les enfants en bas âge, pour les parents notamment, c'est de bien se laver les mains et puis de faire des lavages de nez chez les tout-petits, puisqu'en fait, ils n'ont pas de moyens réellement de se protéger et de se moucher. Or, le nez, c'est vraiment un endroit qui capte tous les microbes au sens large, on va dire. Et donc, comme ils ne savent pas encore se moucher, les lavages de nez leur permettent de nettoyer ce filtre naturel, en fait.
Mmh. Emmanuel nous a écrit « Bonjour Sebamax, moi de ce côté, je touche du bois car j'ai mon médicament normand, une bonne goutte maison avec modération et quand je roule pas. Et si besoin, un bon grog. » Il y avait la lettre qui avait été changée au début du mot, j'ai eu un peu peur, mais c'est un bon grog maison. Et sur la période hivernale, pas mal de miel, mais pas celui du commerce, d'un petit producteur. Donc il a bien précisé, avec modération et quand je roule pas. C'est vrai que le miel, on dit toujours que c'est le truc un petit peu de grand-mère, de qu'on se refile de génération en génération. Est-ce que c'est une réalité médicale, le miel, pour soigner certaines maladies hivernales, ou c'est parce que ça s'est ancré dans l'air du temps?
Ouais, non, je pense que concernant le miel, on est quand même plus. Alors, encore une fois, dès qu'on veut parler, dès qu'on veut, comment dire, certifier une affirmation médicale, nous médecins, notre référence, c'est de comparer ça aux études d'efficacité des médicaments, avec toute la, comment dire, tout le formalisme, toutes les procédures qui vont avec, ce qui est évidemment pas le cas pour le miel et tous les apports naturels. Mais ce qui est vrai, en tout cas, alors le miel, je pense que ça a surtout des vertus apaisante. Alors, il y aurait malgré tout des effets, je veux dire supposés, parce que c'est pas forcément totalement démontré, des effets de stimulant de l'immunité. Et on sait aussi par ailleurs, en généralisant un peu plus, que tous les apports de vitamines en hiver seront bénéfiques. Donc, vitamines naturelles avec les légumes et les fruits frais, c'est vraiment indispensable. Ça renforce les défenses immunitaires, le miel y compris. Voilà. Mais après, on va pas aller rechercher un niveau de preuve médicale comme pour un médicament. Oui. Mais globalement, c'est certain que ça marche. En revanche, tout ce qui est désinfectant par l'alcool, les grogues et tout, c'est peut-être apaisant. Ça fait voilà, mais ça ne permet pas de guérir mieux ou plus vite, quoi.
Voilà, c'est on se dit que ça nous apaise. Je suis sûr qu'en Bretagne, c'est le chouchène.
À volonté. Il y a oui, pas mal de choses. Ouais. On doit avoir des eaux de vie un peu bizarres. Ouais.
Voilà. Radio 107.7, toujours avec modération et jamais quand on conduit, évidemment. Radio 107.7.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. On parle des maladies hivernales avec notre partenaire Transportez-vous bien ce soir et le docteur Pascal Gillet qui est avec nous jusqu'à 23h. Je vois vos questions arriver, vos témoignages également. On va continuer d'en parler.
En direct ou en replay, les routiers sont toujours aussi sympas.
Êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? C'est notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger. Et nous sommes donc toujours en direct avec le docteur Pascal Gillet. Pascal, des témoignages qui me parviennent et notamment Tom qui réagit justement sur la bronchiolite dont on parlait avant le point trafic de 21h45, il nous dit « Salut Sebamax, c'est à tes patrouilleurs du soir. Pour la bronchiolite, mon fils en a fait 3 l'année dernière malgré le vaccin, mais il a eu des formes moins graves. On espère passer un meilleur hiver. On nous avait préconisé la vaccination dès la maternité, car en pharmacie, il se faisait très rare. » 3 bronchiolites, c'est assez important quand même, Pascal Gillet, 3 bronchiolites pardon, sur une saison.
Oui, c'est pas forcément très très fréquent. Après, dans ce message, il y a vraiment effectivement quelque chose que j'avais pas rappelé tout à l'heure, c'est que là encore, le vaccin n'empêche pas forcément d'attraper la maladie, mais permet d'éviter les formes les plus graves. Et apparemment, c'est bien ce qui heureusement a été constaté. Donc là aussi, la Covid nous a donné beaucoup d'informations sur ce type de vaccin qu'on fait ponctuellement, parce qu'il faut faire un rappel annuel, parce que c'est des virus qui évoluent beaucoup, donc c'est aussi ça la différence avec d'autres vaccins. Et ces vaccins alors diminuent un peu la contagiosité, mais leur vraie valeur ajoutée, c'est d'éviter les formes les plus graves. On ne garantit jamais de ne pas du tout. Combien de gens vont vous dire, bah oui, j'avais la vaccination, j'avais été vacciné pour la grippe, mais je l'ai quand même eu. Et puis bon, bah ils ont peut-être été malades un ou deux jours, mais peut-être que, enfin pas peut-être. A priori, c'est démontré que s'ils n'avaient pas été vaccinés, probablement qu'ils auraient eu des formes beaucoup plus sévères. Donc encore une fois, là, on parle des publics fragiles. Oui. S'agissant du vaccin de la bronchiolite, on parle des nourrissons. S'agissant de la grippe, on parle des personnes, on va dire très âgées, ou des gens malades. Donc il faut pas tout mélanger dans les vaccins.
Oui. Et Tom qui nous précise, les parents sont aussi asthmatiques, donc ça n'aide pas non plus, ajoute-t-il, Pascal.
Oui, il peut y avoir des terrains familiaux sur les allergies notamment et sur les asthmes. Hein, donc il peut y avoir des prédispositions génétiques là-dessus. Sur l'asthme, c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente dans la population européenne et française. Et donc on découvre encore des choses sur l'asthme. Mais c'est vrai que c'est une maladie la prévalence, la fréquence augmente chaque année.
Alors, il est temps de basculer aussi sur les bons conseils hein, pour se prémunir de ces maladies hivernales. Il y a évidemment les conseils de base que tout le monde connaît, mais qui sont toujours bien de rappeler, bien se laver les mains régulièrement, et d'autres gestes barrières hein, qui fonctionnent très bien et simplement, Pascal.
Oui, en fait, sur les maladies hivernales, donc encore une fois, hein, qui sont quasiment très très majoritairement virales, un virus, le virus ne peut pas se développer tout seul. Un virus, il a du code, il a ce qu'on appelle un ADN, un ARN, il a du code, mais il n'a pas de système d'énergie. Il ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin à chaque fois de se coller à un hôte, de le parasiter, et de finir d'ailleurs en général par le tuer. Donc l'hôte, c'est la cellule, et puis si on l'agrandit, bah, c'est nous. Et donc, nous, toute espèce vivante sur la Terre, hein, aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais les virus, ils sont vraiment très, 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 très nombreux, bien plus que nous, et ils touchent toutes les espèces vivantes, les virus sur les arbres, sur les animaux et sur les hommes. Donc, pour se prémunir de ces pathologies hivernales, l'essentiel, c'est quand même de se rappeler que c'est des pathologies qui se transmettent par les voies aériennes. Donc, par les éternuements, par le mouchage, donc par les gouttelettes salivaires, même les gastro-entérites hein, se transmettent également par gouttelettes salivaires. Donc dans tout ce qui est pathologie respiratoire, c'est le mode de transmission dominant. Donc le meilleur moyen de s'en protéger, c'est effectivement alors le lavage des mains, oui, mais c'est aussi, alors quand on est malade, de porter un masque, d'éternuer dans le pli du coude, de se moucher des mouchoirs à usage unique. Voilà, c'est ça vraiment les gestes. Il faut toujours se rappeler que ces maladies-là se transmettent par voie aérienne. Les gastro-entérites, c'est plus par les mains, c'est vrai, puisqu'en fait, on a des contaminations par les matières fécales, donc impérativement se laver les mains après chaque épisode de vomissement ou diarrhée, mais ne pas oublier que ça se transmet aussi par les gouttelettes salivaires.
D'accord, donc voilà, donc si vous êtes marié, on attend un peu avant de s'embrasser à nouveau. Voilà, hein, je pense que c'est le meilleur conseil.
Vraiment.
c'est le bon conseil. Alors, on va venir évidemment à ce qui nous intéresse tous de toute façon en tant que bon français, c'est ce qu'on mange aussi également peut jouer un rôle. Est-ce que si vous me prescrivez une raclette, est-ce que ça me prémunit des maladies hivernales?
J'ai envie de dire malheureusement non.
Ah mince.
Rien ne vous prémunira vraiment, mais tout ce qui va renforcer votre immunité, c'est-à-dire encore une fois les vitamines, donc c'est les légumes et les fruits frais, donc pas franchement la raclette quoi.
Bon, dommage, raclette, on oublie raclette, fondue bourguignonne. Ah, moi, je vais être malheureux cet hiver si j'oublie tout ça. Non, ça va pas être bien possible. Donc, c'est vraiment que les fruits frais. Il y a rien d'autre dans notre alimentation qui peut nous renforcer nos défenses immunitaires, comme on les appelle.
Non, mais après, il va y avoir tout ce qui est magnésium, etc., tous les électrolytes qui, globalement, sont bons pour notre santé, bons pour nous préserver d'état de fatigue, etc. Donc tout ça, ça va concourir à une bonne forme générale. Mais c'est vrai aussi de l'activité physique, etc. Après l'alimentation, comme vous le signez, bon, c'est bon pour le moral. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va renforcer les défenses immunitaires. Donc, et puis après, il faut se résoudre à l'évidence que en hiver, le facteur prédominant de ces épidémies, c'est la promiscuité, c'est-à-dire le fait qu'en hiver, on est tous rassemblés dans des zones où il y a du chauffage, en fait, hein, que ce soit les transports en commun ou les bâtiments qui sont fermés, peu aérés, et c'est quand même principale raison de la transmission de ces maladies.
Ben Naruto nous réagit. Salut Sebamax pour la raclette. Si tu veux, je peux la porter. J'ai un complet de fromage raclette. Mais on a dit que ça marchait pas pour prémunir des défenses immunitaires. À part si ça peut juste nous donner chaud, c'est tout. Sinon, moi oui, je suis touché plutôt tous les ans par le rhume, mais je me soigne avec. Je sais pas s'il existe d'autres marques parce qu'il me donne une marque. Pascal Gillet pourra peut-être m'aider parce qu'il me parle du fameux Vix. Est-ce qu'il y a d'autres marques ou pas qui existent? Parce que je suis dans la mouise, pour le coup.
Pascal. Ah ben, Vix, c'est au moins aussi vieux que Serge Lama. Hein, donc, Malgré tout, le VIX, alors ce qui est intéressant dans le VIX, c'est que ça a des propriétés de vasoconstriction et de, c'est-à-dire qu'en fait, ça va resserrer les vaisseaux. Mmh. Hein, donc, quand on s'en met dans le nez, en fait, on va refermer un petit peu les vaisseaux, donc ils seront moins dilatés et donc on va avoir un dégonflement du nez et donc on va mieux respirer. Mmh. Voilà. C'est surtout ça. Alors, il y a plein de médicaments vasoconstricteurs locaux, hein, des sprays, etc. Voilà, le VIX, pourquoi pas. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent, mais pourquoi pas. En tout cas, j'ai jamais entendu dire que ça faisait du mal avec un usage normal, donc pourquoi pas.
Disons que c'est très mentholé quand même, cette histoire.
C'est extrêmement mentholé, ouais, c'est le principe. Ouais.
Ouais. C'est le principe, effectivement. Parmi les autres messages que je reçois, une question qui... Enfin, c'est Malo qui nous avait posé une question complémentaire que je n'avais pas vue, parce que tout à l'heure, il nous a parlé d'une vraie phobie de la gastro-entérite. Est-ce que ça peut faire partie du côté où on a peur des maladies? Parce que là, il nous dit qu'il a vraiment une phobie de la gastro-entérite. Comment on peut expliquer ça?
Alors, il est comme beaucoup de peurs quand elles deviennent phobiques, on l'explique pas forcément. Alors après, c'est souvent une surréaction. Après, c'est possible aussi. Enfin, je peux comprendre que quand on fait un métier comme ceux qui nous écoutent ce soir, on imagine aussi, par exemple, pour un pilote de ligne. Enfin, il y a des métiers comme ça où la gastro-entérite, ça peut être particulièrement compliqué. Donc, j'imagine que voilà, si on a eu un ou deux épisodes et que ça nous a mis dans des situations extrêmement inconfortables, que effectivement, on devient un peu phobique de ces pathologies. Et puis après, il peut y avoir des peurs irrationnelles. Et puis, bon, il faut reconnaître que c'est plus que de l'inconfort. Ça peut même être carrément douloureux. Hein. Donc, c'est des épisodes, notamment les vomissements. Il y a des gens qui font des malaises, hein, etc. Oui, ça peut être particulièrement traumatisant. Hein.
Mmh. On posera également la question à nos deux copilotes de ce soir dans le courant de l'émission, de savoir si eux aussi sont souvent touchés par les maladies hivernales. Alors, si Thibault lui commence à me dire dans le Grand Quart Sud-Est, il fait toujours chaud, c'est faux.
Ne le dirai pas.
C'est faux parce que je sais qu'il fait moins de 10 degrés partout cette nuit en France.
Ah,
donc,
oui, oui.
Donc vous m'aurez pas sur ce coup-là. Oui. C'est...
sont toujours aussi sympas.
Allez, continuez de témoigner, de poser vos questions à notre invité, le docteur Pascal Gillet, radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, il est avec vous jusqu'à 23h, les maladies hivernales, notre thème de ce soir. Et nous ne sommes pas forcément égaux hein, devant la grippe, le rhume, la gastro, etc. Tiens, est-ce que vous êtes vaccin ou pas du tout? Adviendra ce que pourra. Est-ce que l'épidémie de Covid-19 a changé votre vision de ces maladies hivernales? Nous attendons la suite de vos témoignages pour la seconde partie, mais pour l'instant... Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre en direct.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Émission avec notre partenaire Transportez-vous bien, le programme santé et bien-être des conductrices et conducteurs routiers ce mois-ci. Rhume, grippe et autres gastro. Comment se protéger des maladies hivernales? Êtes-vous plus ou moins sensible aux virus d'hiver? Est-ce que vous adaptez votre nutrition? Vous faites face au chaud-froid tous les jours, hein, toutes les nuits? Tombez-vous souvent malade en cette période hivernale? Nous en parlons ensemble et avec votre invité, le docteur Pascal Gillet, présent pour vous donner des conseils, réagir à vos témoignages et répondre à vos questions que vous pouvez continuer d'envoyer quand vous n'êtes pas en train de conduire radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sondage.
Êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? C'est aussi notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Pascal, tout à l'heure, vous m'avez dit à un moment dans une de vos réponses, c'est bon pour le moral, hein, c'est ça?
Oui.
Oui, depuis tout à l'heure, j'ai la chanson dans la tête. Ah. Je suis désolé. Voilà.
Oh là là.
J'en peux plus, fallait qu'elle passe.
Ah, j'étais pas prêt.
Un petit peu pour démarrer, une caresse pour déconner. C'est vous les roulés, c'est danser, c'est vous les roulés,
Ne me remerciez pas, vous l'aurez dans la tête pour le reste de la soirée et de la nuit. C'est avec grand plaisir.
La version longue en plus.
Non mais ne me remerciez pas.
En fait je comprends quand les gens manquent de soleil, je comprends.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs il y a Ben Aruto qui nous dit: je sais pas si la compagnie créole c'est bon pour le moral et bien pour les maladies hivernales, mais en tout cas je te remercie, tu me l'as mis dans la tête. Mais c'est avec plaisir, faut pas me remercier pour ça. Je fais tout avec le cœur. Écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire. Radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et dites-moi si vous êtes en hiver plutôt grippe, plutôt rhume ou plutôt gastro-entérite. Les maladies hivernales, votre rendez-vous santé ce mois-ci avec notre partenaire.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
Et nous sommes toujours en compagnie du docteur Pascal Gillet, évidemment. Alors Pascal, hein, d'autres messages qui me sont parvenus ce soir. Tiens, je vais vous proposer d'aller en Amérique du Nord avec Julien qui nous écrit depuis la Transcanadienne 17 actuellement. Bonjour la forme pour le sujet du jour. Je ne suis pas trop sensible aux maladies d'hiver, tant mieux par moins 50. Par prévention, je me lave régulièrement les mains, et préventif et curatif, un peu d'eau de vie avec de l'eau chaude de miel, de l'eau chaude et du miel, donc évidemment avec modération, jamais quand on conduit, tout ça. C'est bien meilleur que les médicaments chimiques. Sur la Transcanadienne 17 sous la neige et moins 5 degrés en direction de Sault Ste Marie pour la douane, pour le Minnesota. Bonne soirée à tous. Il nous dit PS, en Amérique du Nord, les gens sont très adeptes des vitamines et des compléments alimentaires pour éviter les maladies. Il y a plein de choses intéressantes dans ce message et comme dans tous les autres messages, Pascal, ça nous permet de voir un autre point de vue. C'est vrai que on peut dire qu'en Amérique du Nord, il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles librement. C'est peut-être pas forcément toujours bon, Pascal.
En fait, alors oui, il y a beaucoup de médicaments accessibles en automédication, quoique maintenant en France, il y en a quand même beaucoup plus qu'avant. Après, c'est pas non plus le même système de protection sociale, hein, donc comme les médicaments sont beaucoup moins remboursés, ils sont un peu plus en accès libre. Après, il faut rappeler que dans les épisodes viraux, de toute façon, les médicaments ont pas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, c'est alors effectivement. Ce qu'il faut rappeler quand même, hein, quand on est malade, donc là on parle pas de la prévention, mais une fois qu'on est malade et on parle des pathologies, on va parler essentiellement des pathologies respiratoires, mais c'est pareil pour les pathologies digestives. Donc c'est l'hydratation qui est absolument essentielle, hein, pour compenser les pertes liées à la fièvre ou aux diarrhées ou aux vomissements. Donc l'hydratation est vraiment importante avec de l'eau minérale, hein, peu importe laquelle, mais avec de l'eau minérale pour compenser justement les électrolytes, hein, sodium, potassium, calcium, magnésium, etc. Et puis encore une fois les apports de vitamines, et puis après le médicament roi, j'ai envie de dire, dans ces états-là, par rapport à la fièvre, à la fatigue, c'est le paracétamol. Voilà, pas besoin d'aller chercher des choses beaucoup plus compliquées, hein. Alors je sais pas quelle est la chanson préférée des médecins, mais il y a une vieille blague préférée des médecins, c'est quand on leur pose la question, combien de temps il faut traiter ce rhume, donc est-ce qu'il faut un antibiotique ou pas, donc la réponse c'est bah écoutez, avec un antibiotique 7 jours et sans antibiotique ça va durer une semaine.
Oui. Donc, voilà. Avec la célèbre phrase, les antibiotiques, c'est pas automatique.
D'où voilà, exactement. Et c'est non seulement c'est pas automatique, mais c'est globalement la plupart du temps inutile. Encore une fois, parce que la grande majorité de ces pathologies sont virales. Donc sur le virus, l'antibiotique n'a absolument aucun effet.
Ludovic ajoute pour la gastro-entère cuite. alors ça aussi, c'est souvent le truc des mamans, des grand-mères, des parents, quoi. Est-ce que le riz, voire le bouillon de riz, peut atténuer les symptômes? On entend souvent parler de ça. Oui, alors, j'ai eu droit, hein, moi aussi, en tant que gamin. Hein, moi, j'ai eu droit aussi. Hein.
Ouais, il y a le riz, il y a le coca, il y a tout ça. En réalité, vraiment, ce qui compte le plus dans la gastro-entérite, encore une fois, c'est la réhydratation avec de l'eau minérale. Après, de remanger ce qui n'écœure pas. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ce qui n'écœure pas en réalimentation, ben, ça va être tout ce qui va être plutôt les pâtes ou le riz. Bon, après, le riz, il a des vertus constipantes, mais ça ne suffira pas pour compenser. Donc, moi, je conseille souvent aussi, par exemple, de manger beaucoup de bananes quand on a les gastro-entérites, parce que tout simplement il y a des pertes de potassium très importantes. Et la banane, c'est un des rares fruits qui, on va dire, avec en plus des sucres assez lents, qui passent bien et qui contient beaucoup de potassium. Voilà, ça c'est les petits trucs qui marchent bien. Après, voilà, vous pouvez aussi très bien guérir d'une gastro-entérite sans vous infliger de l'eau grise pendant 3 jours.
Alors, stock de bananes pour tout le monde à partir de demain soir dans le camion. Voilà, comme ça, ça c'est dit. stock de bananes dans le camion à partir de demain soir. Vous y avez eu droit, Florian, vous, au bouillon et au riz ou pas?
Oui, le bouillon de riz, le coca, la banane aussi, après pour reconstituer des forces, je crois.
Ouais, ouais, vous y avez eu droit.
Et moi, ça fait très longtemps, hein, donc j'ai la chance.
Thibaut, vous y avez eu droit, vous aussi, au bouillon de riz
Certainement, mais je préfère ne plus m'en souvenir.
Oui, ça.
Non, mais oui, certainement, oui. Oui, non, j'ai eu le droit à tous ces
trucs. Moi, je me souviens y avoir eu le droit. C'est pas qu'une fois, hein, d'ailleurs. Êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? C'est notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite via la bulle bleue Messenger. Hashtag stock de bananes dans le camion.
21h, 23h, les routiers sont toujours aussi sympas.
Et nous sommes toujours en compagnie du docteur Pascal Gillet pour Transportez-vous bien, médecin généraliste et dirigeant de la plateforme Medialan. Je partage le message de Patrice. Bonsoir la Max Academy, je me souviens il y a quelques années, bien avant que je roule, dans les années 1840, j'ai attrapé une gastro-entérite bien carabinée. Je ne sais pas si le fait d'avoir mangé 1 kilo de clémentine y a joué, mais le lendemain je n'avais plus rien. C'est possible ça, Pascal?
Non, a priori, je vois pas de lien. Après,
corrélation.
Non, je vois pas de lien. En tout cas, en curatif, et même vaut mieux éviter les agrumes, c'est quand même très acide. Généralement, c'est pas vraiment recommandé en plein épisode de gastro-entérite. Après, faut savoir qu'il y a des gastro-entérites là aussi qui ont des durées d'incubation et des durées de crise qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend de la quantité qui nous a infecté et puis de l'état de santé de forme de chacun aussi. Il y a des gens qui vont être malades pendant une journée, d'autres 3 jours, d'autres 5 jours. Voilà, il y a quand même des variations. En général, c'est 2 à 3 jours, donc mais une journée, pourquoi pas, ouais.
Pascal, j'avais quand même une autre question à vous poser. Est-ce que certaines maladies hivernales peuvent être chroniques ou peuvent devenir chroniques?
Alors, est-ce que vous pouvez un peu préciser votre question?
Je sais pas. Est-ce que ça peut avoir des séquelles sur le long terme à ces maladies hivernales? Je pense que c'est dans ce sens-là que je l'imagine.
Non, normalement non. On peut, enfin, pas à ma connaissance. Alors après, il y a certaines maladies hivernales qui peuvent avoir des complications sévères. C'est quand même très, enfin, c'est quand même franchement rare. Mais en réalité, non. Après, quand on a un épisode, en général, on développe une certaine immunité. Donc au contraire, c'est plutôt protecteur. On peut peut-être imaginer que des bronchites répétées vont finir par fragiliser quand même l'appareil bronchique, mais encore une fois, c'est pas fréquent. Non, c'est plutôt quelque chose qui fait partie de la vie de chaque individu. Et puis aussi, peut-être aussi rappeler que c'est de plus en plus, on y attache peut-être plus d'importance et on en constate beaucoup plus depuis que l'homme s'est sédentarisé et que les zones où il s'est sédentarisé, la concentration d'humains a augmenté. Mmh. Hein, donc les grandes aires urbaines, il y a des épidémies qui sont de plus en plus constatées.
En tout cas, il y a Patrice qui ajoute actuellement, il est atteint de flémingite aiguë. Est-ce qu'il y a un remède pour ça? Pascal.
Ouais, non, je connais pas. Hein, mais... En tout cas, par contre, ça, on l'a tous eu, ça, c'est sûr.
Voilà. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous échappez pas, vous, aux maladies hivernales, j'imagine?
Malheureusement, non. Et, on a tous des souvenirs quand on était étudiant, quand on est en stage dans les services de pédiatrie, c'est difficile d'échapper, même en mettant toutes les protections. C'est dire à quel point d'ailleurs c'est quand même extrêmement contagieux, hein, les gastro-entérites. Oui. Et puis effectivement, non, mais tous les personnels de santé qui font des soins, que ce soit en ville ou à l'hôpital, on est quand même très très exposé et donc on essaye de se protéger au maximum et d'encourager toujours les gens qui viennent nous voir et qui se savent malades à porter un masque pour nous protéger aussi. Mmh. Ouais. Et on a accès à la vaccination, en tout cas dans les hôpitaux, c'est proposé pour les personnels, pour ceux qui le souhaitent, grippe et Covid.
Évidemment, vos messages comme JP hein, qui nous a écrit « Salut Seb, t'es copilote, moi je dis qu'après une bonne raclette ou alors une bonne fondue bourguignonne, une bonne tartiflette, enfin tous des trucs légers comme ça, une choucroute, et ben moi je dis que tant que le moral va bien, après tout ça, on n'est pas malade, donc il n'y a pas que les légumes. Bon, allez, sur ce, la prudence à toutes et tous. On n'oublie pas le corridor de sécurité des bisous du panda. Bah, il nous manque quand même le cassoulet, déjà, dans toute cette liste. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est pas anti-maladie hivernale, comme nous l'a dit Pascal il y a quelques instants. D'autres messages qui me parviennent, notamment Betty dit petit gibus. Bonsoir la famille du 107.7. Moi quand je suis malade, c'est grog à l'agneau, le Mirabel des Vosges, efficace depuis des milliers d'années. Plein de béco et bonne soirée à tous. Signé petit gibus. Alors elle nous dit petit gibus et c'est son point de vue évidemment qu'elle est anti-vaccin et anti-médicaments. Après je reconnais avoir de la chance car je suis rarement malade. Merci mon Dieu. Amen. Ajoute petit gibus. Pascal Gillet, donc on avait la réaction de Petit Gibus. Moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu placebo ou alors on se convainc de manière psychologique que tel ou tel truc peut fonctionner, Pascal ?
Ah ben bien sûr, hein, non mais ça de toute façon c'est une évidence. On peut se convaincre de choses. On peut avoir l'impression qu'il y a des choses qui marchent. En fait, c'est toujours pareil. La question, c'est de savoir est-ce que c'est le hasard qui fait bien les choses ou pas. Mais encore une fois, après l'effet placebo, il ne pose jamais de problème aux médecins tant que c'est pas avec des produits qui peuvent être mauvais pour la santé. Sinon, on perd tout l'intérêt, quoi. Mais la force, je dirais, de la conviction et donc peut-être de l'esprit sur le corps, elle est reconnue, elle est importante, oui, bien sûr.
Eh bien, ne quittez pas, on va se retrouver dans quelques minutes. Pascal, êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale ? C'est notre sondage de ce soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bandeau orange, votez et venez nous en dire plus ensuite. Dites-nous si une de ces maladies vous a déjà cloué au lit sans pouvoir rouler ensuite. On l'a vu dans certains messages. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour vous prémunir de la grippe, le rhume, la moche gastro ? Nous continuons d'en parler ensemble.
3 studios, 3 copilotes, 4600 km de grand ruban.
La suite de vos témoignages dans un instant, la suite de vos messages avec notre invité Pascal Gillet dans quelques petites minutes. Vous aussi, écrivez-nous quand vous n'êtes pas en train de conduire. Radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Et dites-nous si les maladies hivernales font partie de votre vie tous les ans. Et tiens, votre enfant a-t-il déjà été touché aussi par la bronchiolite, hein, une maladie hivernale qui inquiète chaque année. On en a parlé tout à l'heure avec Pascal. Pour l'instant, un peu de musique. Sophie and Giants, les Purple Disco Machine Paradise. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine avec Paradise sur le 107.7. Alors Guillaume qui me disait bonsoir Sébastien, pour les chansons de médecin, tu as le ch'ti Camini, sinon il y a débat sur Doc Gynéco. Moi je mets veto sur Doc Gynéco personnellement, je sais pas ce qu'en pense Florian et notre ami Thibault, mais moi je mets veto sur Doc Gynéco.
Oui, on te suit, il n'y a pas de souci.
Ouais. Il n'ose pas. T'as le droit d'aimer, hein.
Oui.
Thibault,
moi je pensais plutôt j'ai un trou de mémoire monstrueux. Qui chantait j'ai le foie qui est pas droit, j'ai la rate qui se dilate.
Oula, j'avoue pas de ça. Mais attendez, moi je suis de 1812 pourtant, mais là ça me revient pas là tout de suite. Vous connaissez Pascal, vous?
C'est une chanson qui parlait de tous les symptômes.
Mais ça remonte à très loin. Ça,
hein. J'ai pas dit que c'était une nouveauté non plus. Hein.
Bah, vous faites des recherches pendant qu'on discute, Thibaut, et retrouvez-nous ça. Je suis sûr que Florian il va nous le retrouver aussi.
J'essaye de chercher tout cela. Mais c'est peut-être un vieux classique qui a été repris par mal de monde. Ça remonte aux années 30. Hein, joli.
Ah ouais, quand même.
Oui. Alors, Gaston Ouvrard à l'origine.
Thibaut, faut qu'on parle parce que faut que vous me parliez de votre médecin, de votre chirurgien quand même. Hein. Si, ça va être important là pour moi dans les prochaines années. Faut en parler. Ça, c'est. Figurez-vous qu'il y en a un, il a déjà trouvé parce qu'il est en train de nous écouter. Figurez-vous, c'est Monsieur Hervé Améry, copilote du 107.7.
J'étais sûr qu'il allait trouver.
Et en fait, direct, il me l'a envoyé par SMS. Il me dit, c'est Gaston Ouvrard qui a chanté ça. Il y en avait qu'un pour nous trouver ça en moins de 30 secondes quand
c'était
même.
Sûr.
Allez, on t'embrasse. Service.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
Il est incollable, cet Hervé Améry. Je suis en train d'hésiter parce que je suis les informations du contresens et figurez-vous qu'à partir de demain, il y a quand même une nouveauté, Pascal Gillet. Je pense que vous êtes au courant, mais là je l'ai sous les yeux, info de l'AFP, on est pile dans notre sujet de ce soir, traitement anti-rhume, la vente sans ordonnance interdite à partir de mercredi, pardon, annonce l'agence du médicament. Alors ça m'arrange parce qu'ils donnent des exemples hein, de médicaments, et disent Actifed, Dolirhume, Humex, Nurofenrhume ou encore Rinadvil, une ordonnance sera obligatoire pour obtenir ces traitements en pharmacie à partir de mercredi. Vous étiez au courant, Pascal ?
Alors, j'étais pas au courant, mais ça fait un moment que...
Ça vient de tomber.
Ça fait un moment que le sujet est évoqué, parce qu'en fait, c'est des médicaments souvent, ce sont des associations de deux principes actifs, en fait, des anti-inflammatoires, anti-fièvre et d'un vasoconstricteur. Et le problème des vasoconstricteurs consommés par comprimé, lorsqu'ils sont même par spray, si on en a un usage trop intensif, ça peut donner des troubles cardiaques ou vasculaires, quoi. C'est parce qu'on a quand même soit des dosages assez forts, quoi. Et je crois me souvenir que c'est surtout pour cette raison que l'agence de médicaments préfère que ce soit de nouveau régulé par une prescription. Hein.
Vous n'avez pas peur que d'ici mercredi, les pharmacies soient dévalisées?
Ah c'est le risque, mais tout à fait, oui, il faut toujours avoir un effet un peu embêtant, oui, tout à fait.
On aurait voulu le faire exprès qu'on n'y serait pas arrivé, hein, cette information qui vient de tomber, donc pour à partir de mercredi, tous les médicaments donc je vous ai parlé qui nécessiteront donc une ordonnance. Il y a David qui nous a écrit également, juste pour faire un coucou au transport Olano. Ben voilà, le message il est passé. Merci David. Et puis d'autres messages concernant notre thématique vont arriver après l'infotrafic. Puis on s'intéressera à la santé de nos copilotes hein, de ce soir. J'ai toujours bien envie de savoir comment se portent mes copilotes. Ils sont en forme, ils ont la santé. Entre copilotes dans la radio, on se soutient. Hein. Voilà.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Sondage.
C'est déjà le dernier quart d'heure de cette émission de ce soir où nous continuons de parler des maladies hivernales jusqu'à 23h. Êtes-vous facilement touché par une maladie hivernale? Alors, le sondage, vous êtes quasiment 70%, 68,8% nous dire que non, 31,3% nous disent que oui, sont facilement touchés par une maladie hivernale. Est-ce que ça corrobore un petit peu ce qu'on sait dans le milieu médical, Pascal Gillet?
Oui, parce que en fin de compte, là, c'est des gens qui se disent. Que je reprenne le sens de l'affirmation.
Facilement touché par une maladie hivernale.
Voilà, donc il y en a que 30%, hein, j'ai bien compris. Donc effectivement, la majorité des gens ne sont. En fait, quand on regarde un petit peu autour de nous, alors c'est pas scientifique, hein, ce que je veux dire, mais en fait, on est en moyenne chacun touché par un ou deux épisodes par an, pas plus. Et ceux qui en ont 4, 5, 6, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Donc le sens de facilement touché, c'est ça, quoi. Donc heureusement, c'est quand même pas la majorité des gens. Et puis après. Il y a aussi ce qu'on observe, c'est souvent dans les familles avec des jeunes enfants hein, qui sont des bons vecteurs hein, de virus. Donc les jeunes parents sont un peu plus touchés. Les enfants grandissant, on est un peu moins touchés quand même.
Oui. Petit tour de table maintenant, comme promis, avec Thibaut Luc. Thibaut, facilement touché par les maladies hivernales?
Non, j'ai une bonne nature. Non, ça va, je suis pas trop sujet à des maladies. En plus, moi, je prends jamais de médicaments. Alors du coup, si je suis malade et que j'en prends un, le médicament, il est efficace de suite.
Ah oui, d'accord. Voilà, direct. Ouais. Florian, vous, de votre côté?
Non, je dois avouer que je suis épargné depuis une dizaine, douzaine d'années. Rien de problématique. Voilà, parce qu'on va le dire autrement. De 11 à 24, 25 ans, j'avais des cycles tous les 2-3 ans, je m'en tapais une de ces maladies, vraiment, ouais. C'était cyclique. Et toujours, genre, le mois de janvier, un lundi, ça vous saisissait, et assez violent pendant 2-3 jours, à chaque fois, grippe comme gastro.
Il y avait un contrôle à ce jour-là?
Non, mais il m'est arrivé des fois de jouer la prolongation sur la convalescence jusqu'à 2-3 jours. Voilà, je l'ai fait une fois. Non, mais ça peut être violent, hein. Depuis, écoutez, le Covid, quand même, ça permet d'avoir peut-être une meilleure hygiène quand même maintenant avec ces gels hydroalcooliques un peu partout, donc on prend.
Moi, je touche du bois. La gastro-entérite, par exemple, ne m'a jamais touché depuis l'adolescence. Donc,
ah oui.
Je touche vraiment du bois. J'ai eu la crève, ce qu'on appelle la crève, le rhume, le machin, tous ces trucs-là, mais je touche du bois. La gastro, j'y échappe pour le moment. Et paf, la semaine prochaine, je serai pas là à cause de ça.
Ça va arriver.
Faut rester
patient, Sébastien.
Alors, parmi les messages reçus, alors, il y a juste Pierre qui nous dit « Hello l'équipe, j'ai un peu de retard, du coup je vous écouterai demain après-midi en podcast. Juste un petit coucou rapide, bise à vous. » Signé Ronflex. Il y a Ludovic qui voudrait que je m'habille en banane. Voilà. Suite à notre hashtag 1 kilo de banane dans chaque camion à partir de demain soir. Parce qu'on va retenir ça aussi, hein, Pascal Gillet, vraiment la banane avec le potassium. Alors voilà. Il y a Audrey qui contredit un petit peu ce que vous nous avez dit. Mais bon, il y a toujours des exceptions, évidemment, c'est pour la blague. Mais il y a Audrey qui nous dit « Bonsoir l'équipe, pour ma part, jusqu'il y a un an, je n'étais jamais malade, même avec 5 enfants qui ramènent toutes sortes de microbes. Lorsqu'ils me demandent pourquoi je ne suis jamais malade, je leur réponds que je n'ai pas le temps. » J'aime beaucoup cette réponse, je la fais de temps en temps aussi. Elle nous dit « Sinon, je ne pourrais pas m'occuper d'eux, être cuisinière, maîtresse d'école, tenir une laverie, couturière, infirmière et aller travailler, comme tout le monde. Je sais, une femme n'est pas à l'article de la mort, si elle a un rhume, ok, je sors. En l'occurrence, depuis que j'ai été diagnostiquée maladie de Crohn, les traitements ont affaibli mon système immunitaire et je suis plus sujette au rhume. Bonne soirée à tous et la prudence sur la route. » Là, on a un exemple très concret, hein, Pascal, c'est que dès qu'on a les défenses immunitaires qui sont affaiblies, elle nous parle de la maladie de Crohn découverte il y a un an, forcément, on est beaucoup plus fragile en hiver, quoi.
Ah oui, complètement. Il y a plusieurs types de traitements, mais très probablement, là, il y a eu des traitements par corticoïdes, dont on sait qu'ils abaissent effectivement les défenses immunitaires. Et puis, surtout, ces maladies qui évoluent par crise, et c'était peut-être là les premières crises, et lors des crises, effectivement, il y a des réactions aussi inflammatoires assez intenses. Hein, et donc, les réactions inflammatoires, elles bousculent aussi le système immunitaire. Donc, ça peut aussi y participer. Après, le fait d'être souvent exposé des virus, c'est vrai que ça peut aussi créer un fond d'immunité, c'est-à-dire qu'on n'est pas exposé à des fortes quantités de pathogènes et donc on met suffisamment pour s'immuniser et donc il y a aussi des gens qui sont protégés grâce à ça. Hein, il y a un peu tous les cas de figure. C'est-à-dire que par exemple après l'épidémie de Covid, les années qui ont suivi, on craignait beaucoup qu'il y ait des recrudescences d'épidémies d'autres maladies parce qu'en fait notre système immunitaire du fait des périodes de confinement avait été moins stimulé.
Pascal, j'ai une remarque très intéressante aussi de Sonia qui nous dit « Bonsoir Sébastien ». Elle me dit « Moi, c'est pas une maladie, mais j'ai toujours les lèvres gercées tout l'hiver. Bisous à vous, signé Sonia et Olivier ». C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, ça fait partie aussi des inconvénients de l'hiver, ces fameuses lèvres gercées. Mais elle nous dit que ça la poursuit tout l'hiver. Alors, la pauvre, pendant 6 mois, ça doit pas être sympa hein, quand même.
Oui, ben après il y a des gens qui ont comme ça des sécheresses localisées. Ben après ça dépend peut-être de son métier, ça dépend. Je sais pas, il peut y avoir d'autres paramètres. Il y a pas grand chose à faire là-dessus si c'est de mettre une crème protectrice, quoi. Hein. Ça c'est des variations un peu des particularités d'un individu à l'autre.
Il y a également Malo qui rajoute « À l'arrêt, pendant ma pause en vision, je pratique beaucoup ma passion pour le yoga du rire et la thérapie par le rire que je pratique en visio avec des amis. En quoi la thérapie rire peut renforcer le système immunitaire ?» Bon, faut déjà savoir si c'est possible, Pascal.
Bah, écoutez, là, je ne saurais répondre.
Il y a pas de, voilà, c'est ça, il n'y a pas de données scientifiques.
Pas ma connaissance en tout cas, mais le système immunitaire est encore assez mystérieux et assez complexe.
C'est vrai.
Et probablement qu'il y a encore des paramètres dont on ne peut pas faire la preuve, mais il est clair que l'humeur au sens large, donc le rire, la bonne humeur, etc., ça participe forcément à un certain équilibre. De là à dire que ça aide le système immunitaire, pourquoi pas, moi, mais en tout cas, moi j'en ai pas la connaissance ni la preuve.
Voilà, donc voilà, il y a encore peut-être des expériences à réaliser. Juste pour répondre à Sarah, alors j'en ai parlé tout à l'heure, pas dans chaque point trafic et encore moins depuis qu'on a le contresens, mais effectivement, l'échangeur Château-Renaud sur l'autoroute A10 est fermé en direction de Bordeaux, en entrée comme en sortie hein, ce soir et cette nuit, mais pas dans l'autre sens de circulation. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes. David me dit... Une pomme par jour éloigne les médecins, surtout si on vise la tête, en référence évidemment à Guillaume Tell. Vous avez encore des gens qui ont peur comme ça, des médecins qui n'osent pas venir consulter alors qu'ils en auraient besoin? Ça vous arrive encore, ça?
Bah, écoutez, c'est vrai que moi, dans le secteur où je travaille, il y a des gens qui sont... Alors, je ne sais pas s'ils ont peur, mais...
Ils sont allergiques.
C'est une peur. Mais il y a des gens qui voient très peu le médecin, ouais, qui et qui disent bon, voilà, qui alors je dis pas que ça marche toujours bien, mais enfin ouais, il y a la perception du médecin, elle est quand même peut-être assez variable. Je crois que globalement aujourd'hui la majorité des gens n'ont pas peur des médecins, ils y ont recours très 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 facilement. Peur non, mais une certaine capacité à se passer de médecin, oui, je pense que il y a des gens qui ne consultent que très peu, ouais.
Merci à toutes et tous pour votre participation et votre grande fidélité. Puis bon, on va remercier évidemment le docteur Pascal Gillet de Medialand pour Transportez-vous bien. Hein. Merci encore pour tous ces conseils, toutes ces explications hein, très utiles et importantes pour tous nos amis qui conduisent jour et nuit à la semaine également au mois et que bon bah on aura compris, on en a parlé tout à l'heure. Certaines maladies peuvent être plus que contraignantes lorsqu'on fait ce métier et d'autres, mais là on s'est concentré évidemment sur les conductrices et conducteurs routiers. Merci encore Pascal d'avoir été avec nous et hashtag un kilo de banane dans le camion, c'est ça hein, Pascal?
Voilà, ça me fera plaisir, c'est un peu mon dada, je dois reconnaître.
Voilà. Le programme santé et bien-être des conductrices et conducteurs routiers à retrouver sur transportezvousbien.fr. À bientôt Pascal, bonne soirée.
Merci vous également.
Thibaut et Florian, très belle soirée à tous les deux.
Merci Sébastien, salut Florian, couvrez-vous. Oui. Bien.
Salut à tout le monde, Thibaut, Sébastien, c'était bien?
Oui, ciao. Bah il caille cette nuit, hein, par endroit. Demain, playlist à thème spécial Noël-Hiver, avec un duel difficile dans notre sondage, messieurs. Tino Rossi, Maria Carré, qui l'emportera?
Hein? Tino Rossi, allez, moi.
Thibaut.
Je préférerais George Michael.
Non, je l'ai fait l'année dernière.
C'est vrai?
Oui. Enfin,
bon, bah, ok.
Donc c'est soit Tino Rossi ou Maria Carré demain. Voilà.
Allez, on va dire Maria Carré, c'est un peu plus récent que la suggestion musicale que j'ai fait il y a quelques minutes. Comme ça, moi, j'essaye de faire une moyenne d'âge.
Allez, Maria Carré, Tino Rossi, qui l'emportera? C'est vous qui le déterminerez. Le sondage est disponible dès demain matin à partir de 5h30 sur la page Facebook de l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, et la prudence ou la bonne nuit. Je vous dis à demain 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212 hashtag respectons les routiers.
Retrouvez Les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h 23h sur Radio Vinci Autoroute.